Ceci, vous n'êtes pas venu à Orléans pour rien. Radio Campus, la meilleure façon de vivre à Orléans.
Thank you. papa n'était pas parti. Comme si dans la rue nous n'avions pas grandi. Comme si je n'avais jamais vendu de drogue. Comme si Yann et les autres n'étaient pas morts. Comme s'il y avait de la mesure, pas de balance. Comme si ce n'était pas une triste adolescence. Comme si nous étions du même monde. Comme si nous étions des hommes, pas des ombres. Ce monde est une tombe. Chacun l'affronte comme il veut, comme il veut. Ce monde est une bombe. Chacun se fume façon veut, qu'est-ce que tu veux. Ce monde est une tombe. Chacun l'affronte comme il veut, comme il peut. Ce monde est une bombe.
C'est comme ça.
Comme si maman n'avait jamais pleuré. Comme si on voulait tout brûler pour flamber. Comme si je n'avais jamais vu d'overdose. Comme si cathartique n'était pas ma prose. Comme si je n'avais connu que des bonhommes. Comme si j'avais tout appris à l'école. Comme si je n'avais jamais connu de catombe. Comme si l'ange ne soufflerait pas dans la trompe.
Ce monde est une tombe. Chacun l'affronte comme il veut, comme il peut. Ce monde est une bombe. Chacun se fume façon beuh, qu'est-ce que tu veux. Ce monde est une tombe. Chacun l'affronte comme il veut, comme il peut. Ce monde est une bombe.
C'est comme ça. Comme si le rap était la musique des opprimés. Comme si je cristallais pas pour des billets. Comme si nous n'étions plus des dealers. Comme si personne se jetait à la peur. Comme si personne n'était traité de singe. Comme si la bêtise allait enfin s'éteindre. Comme si le mal et le bien se confondent. Comme si assassin n'était pas la honte.
Ce monde est une tombe. Chacun l'affronte comme il veut, comme il peut. Ce monde est une bombe. Chacun se fume façon beuh, qu'est-ce que tu veux. Ce monde est une tombe. Chacun l'affronte comme il veut, comme il peut. Ce monde est une bombe.
Comme ça, comme si c'était fini.
Comme
si c'était fini. Et on danse comme ça, comme si c'était fini. Comme si c'était fini. Et on danse comme ça, comme si c'était fini. Comme si c'était fini. Et on danse comme ça, comme si c'était fini. Et on danse comme ça, comme si c'était fini. Comme si c'était fini. Et on danse comme ça, comme si c'était fini. Comme si c'était fini. Et on danse comme ça, comme si c'était fini. Comme si c'était fini. Et on danse comme ça, comme si c'était fini. Comme si c'était fini.
J'ai les sourcils qui froncent sans cesse, le ventre qui brûle, les nerfs qui contractent ma face. Tu croyais m'abattre, c'est raté. Sache que la provocation ne m'a jamais épaté. Il y a peu, je me tairais, me taisant face à la terreur trouble qui me terrassait. J'irai dans les l'erreur trop éreintée pour y voir clair, laissant mes efforts se défenestrer sans dire au revoir. Le dégoût, cramponné au basket, les dégâts qui chantonnent à tue-tête. Été froid, hiver brûlant, ne sens-tu pas le dérèglement? Été froid, hiver brûlant, j'ai besoin d'une avalanche de mots braves, détonnants, couleur lave, dévorant. Il s'en fallut de peu frôler le creux, serrer les crocs. Des mots braves, détonnants, couleur lave, dévorant. Il s'en fallut de peu frôler le creux, serrer les crocs. Des milliers à feindre l'assurance pour éviter de s'entailler. Et toi, misérable, minuscule, petit personnage qui mise à sa vie sur les prises d'otages des âmes de tous ceux qu'il est censé aimer. Aucune valeur, vilain voleur, croyant s'élever en dévalisant les vallées qui plus tard l'avaleront. Été froid, hiver brûlant, j'ai besoin d'une avalanche. De mots braves, détonnants, couleur lave, dévorant. Il s'en fallut de peu frôler le creux, serrer les crocs. Des mots braves, détonnants, couleur lave, dévorant. Il s'en fallut de peu frôler le creux, serrer les crocs. Des mots braves, détonnants, couleur lave, dévorant. Il s'en fallut de peu frôler le creux, serrer les crocs. Des mots braves, détonnants, couleur lave, dévorant. Il s'en fallut de peu frôler le creux, serrer les crocs. Des souvenirs en brille qui narguent mon présent découpant. L'avenir à vif en tas de marques oppressantes. Et dans la nuit qui dure, j'ai vu clair dans ton jeu. Mais l'espoir que tu censures restera fier à jamais. D'étranges fumées sortent de nos cœurs qui souffrent, de nos corps qui toussent, de nos propos qui se troublent. Ma nervosité m'écorche, pire, elle m'accable. Je n'ai plus peur de rien, je peux même te faire la danse macabre.
We'll be right back. bonjour, bienvenue sur le 88.3 FM Radio Campus à la médiathèque d'Orléans. Aujourd'hui, nous sommes le 16 décembre et puis aujourd'hui, en fait, vous avez le plaisir à la médiathèque de rencontrer Étienne Davodeau. Alors, on va parler de tout ça avec nos invités également. Bonjour Christine Perrichon.
Bonjour à tous.
Alors, vous êtes bien sûr directrice du réseau des médiathèques et vous nous faites l'honneur à chaque fois d'être presque à chaque fois présente sur le plateau.
C'est un honneur, c'est un plaisir.
Oh, c'est gentil. Avec nous également, Aurélie Fischer, bonjour.
Bonjour.
Alors, toi, tu t'occupes bien sûr de l'action culturelle ici à la médiathèque d'Orléans. Et ça tombe bien, puisque de l'action culturelle, il y en a aujourd'hui, puisqu'il y a cette rencontre avec Étienne Davodeau. Et à cette occasion, on accueille sur le plateau Lucie Servin. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes journaliste et vous animez la rencontre avec Étienne Davodeau. Vous êtes historienne et journaliste pour les Cahiers de la BD, pour l'Humanité. Et puis, vous avez été aussi membre du jury pour le prix Artemisia. Vous faites partie d'une association qui s'appelle ABCD, l'Association des critiques et journalistes de bande dessinée. Et puis, vous avez créé et animé votre blog qui s'appelle Le Calamar Noir. Très bande dessinée comme nom de blog. Le Calamar Noir, on s'attend à du polar, on s'attend à quelque chose comme ça. Le Calamar Noir, un blog tentaculaire autour de la bande dessinée. Donc cet après-midi, vous animez cette rencontre avec Étienne Davodeau. On va parler bien sûr d'Étienne Davodeau pendant cette émission, mais on va également parler de vous, Lucie Servin. Alors, vous êtes journaliste BD. Comment on devient journaliste BD aujourd'hui ? Est-ce qu'on a plutôt un parcours d'historienne, comme c'est votre cas, je crois ? Ou est-ce qu'on a plutôt un parcours de journaliste culture et on va se spécialiser particulièrement vers ce qui nous plaît le plus, vers une passion ? Ou bien est-ce que vous-même, en fait, vous écrivez de la BD, peut-être ?
Alors non, mais en plus, je pense que c'est quelque chose d'assez genré, en fait. La bande dessinée, c'est quelque chose qui s'est professionnalisé assez tard. Moi, je suis arrivée à la BD à la fin des années 2000. Donc, il y a eu quand même un tournant dans la bande dessinée qui est les années 90-2000, avec des nouveaux éditeurs comme l'association. Mais à cette époque-là, c'est un milieu très, très masculin et de lecteurs de fans, en fait. Donc, moi, quand je suis arrivée dans la BD, il n'y avait pas beaucoup de journalistes spécialisés en bande dessinée. Il y avait surtout des amateurs très compétents, mais qui étaient plutôt des hommes qui ont été nourris avec le journal de Spirou. Toutes ces choses-là que moi, j'ai absolument pas lues, parce que j'ai peut-être lu Tintin quand j'étais petite et Astérix. Mais la BD, j'en avais un peu rien à faire. Et par contre, j'ai beaucoup aimé la littérature et la gravure, le livre imprimé. Donc c'est par là, en fait, par l'image, j'ai fait des études d'histoire et d'histoire de l'art. Et c'est comme ça que, pour ne pas devenir prof, je suis devenue journaliste culturelle. Et qu'en arrivant dans une rédaction comme l'Humanité, en fait, on arrive là et il y a déjà des journalistes dans tous les secteurs culturels qui ont des plates-bandes, le cinéma, la littérature, les livres, les expositions, la musique. Et quand on essaye de se faire sa place, moi j'ai oscillé entre ce qu'on appelait les musiques actuelles, musique électronique. Mais bon, du coup, on me faisait des petits encarts « Lucie, musique bizarre ». Et puis, un jour, j'ai dit, mais il y a quelqu'un qui s'occupe de la bande dessinée. Et puis, comme il n'y avait personne, par opportunisme complet, je suis arrivée dans la BD. Et puis, de fil en aiguille, ça fait presque 15 ans. Donc maintenant, je connais quand même bien ce milieu.
Alors, bien sûr, ici à la médiathèque d'Orléans, il y a un sacré rayon BD. Justement, comment il est valorisé ce fonds bande dessinée ? Alors, bien sûr, vous accueillez des auteurs comme Étienne Davodeau cet après-midi, mais ici, justement, comment on travaille la BD à la médiathèque d'Orléans ?
Je dirais presque qu'on n'a pas tant besoin que ça de travailler la BD. Parce qu'il y a vraiment un public de fans. Je regardais, là on est en fin d'année, donc vous savez, les bibliothécaires, ça aime bien les statistiques. Et quand même,
les prêts de bandes dessinées, mangas, etc. représentent 28% des prêts du réseau des médiathèques, ce qui est c'est vraiment le secteur qui remporte le plus l'adhésion et la soif de découverte de nos publics. Et du coup, voilà, on a des collègues qui sont chargés donc des acquisitions, qui veillent sur tout ce qui paraît comme le lait sur le feu, qui n'ont de cesse de réclamer des augmentations de budget pour pouvoir assouvir alors la soif des utilisateurs, mais aussi leur propre soif, ce qui est tout à fait réjouissant, bien évidemment. Et du coup, on propose des rencontres, on propose des mises en valeur un peu classiques, des tables thématiques où nos collègues, il y a quelques semaines, étaient présentes dans le hall de la médiathèque pour dire venez voir tout ce qu'on a acheté de nouveau. Et venez, on en parle avec vous et on vous les présente. Voilà, donc différentes actions et surtout vraiment un public très, très, très accroché avec lequel on essaye de correspondre et de répondre à leurs besoins.
Lucie Servin, alors vous êtes journaliste BD, vous ne saurez peut-être pas répondre à ma question, vous allez peut-être la trouver déplacée. Est-ce que le marché de la BD, c'est un marché qui se porte bien au niveau du livre, en fait ?
Alors le marché de la BD, c'est très compliqué parce que si on regarde les statistiques, on va dire ah ça marche super bien, c'est un des secteurs de l'édition qui marche le mieux, etc. Mais en fait, c'est il faut regarder les arbres qui cachent la forêt en fait. Il y a des locomotives, il y a des choses qui marchent très bien. La BD, c'est un océan, c'est vraiment immense. Et même moi, en étant spécialiste BD, je suis pas spécialiste de toute la BD parce qu'il y a des secteurs très très différents. Il faudrait pas croire que c'est même tous la même chose. C'est ça qui est passionnant en fait dans la bande dessinée. Donc par exemple, les secteurs manga vont marcher très très bien, mais c'est pas la production franco-belge, enfin ce qu'on appelle la BD francophone. Il y a aussi des BD traduites. Donc le marché de la BD, quand on voit des sorties comme les nouveaux Astérix ou là les histoires qu'il y a avec autour de Gaston Lagaffe, même s'il y a toute une polémique, c'est des albums qui marchent très très bien, qui sont produits à plusieurs millions d'exemplaires. En règle générale, un album de BD normal aujourd'hui, il est tiré à 2000 exemplaires en moyenne, et y compris chez des gros éditeurs. Donc dire que ça se porte bien, les auteurs et autrices de bande dessinée diront pas que ça se porte bien. Parce que personne, aujourd'hui, avec un tirage à 2000, peut se rémunérer de son activité.
Mais c'est un peu la même chose quand même que les romans adultes. Très, très peu sont tirés à plus de 3000 à 4000 exemplaires. Hein.
Oui, c'est sûr. C'est sûr. Et puis c'est pour ça, c'est pour ça qu'il y a des subventions, il y a les aides du CNL qui sont très importantes pour les auteurs et les autrices, des aides de région. Enfin, c'est vrai que c'est des activités culturelles ou bien que les auteurs sont obligés de faire des activités à côté, des animations d'ateliers et toutes sortes de choses qui peuvent empiéter sur leur création aussi.
Et alors, Étienne Davodeau, j'ai lu une interview d'Étienne Davodeau qui dit justement que on peut pas être dessinateur ou auteur de BD aujourd'hui et vivre sans éditeur. On peut faire le parallèle avec la musique. Aujourd'hui, on peut s'autoproduire, faire de la musique facilement et la diffuser à grande échelle. C'est quelque chose qu'on peut pas, on peut pas faire un parallèle avec la bande dessinée. La bande dessinée sans édition, ça peut pas survivre.
Il y a quelque chose de très très drôle dans la BD, c'est que dans les débuts des années 2000, tout le monde parlait de la BD numérique, que le papier allait disparaître, etc. S'il y a un secteur où le livre résiste, c'est la bande dessinée. C'est-à-dire que à travers la bande dessinée, il y a aussi ce média. C'est pas que même si on a fait beaucoup de progrès en technique sur les impressions et la fabrication des livres, ça reste des médias où il y a un moment donné, il faut imprimer et il faut reproduire, et c'est l'objet bande dessinée qui fait partie du plaisir de lecture. Donc là, le travail éditorial, et quand on parle avec des auteurs de BD, des dessinateurs, en général, c'est quand même des gens qui sont très au courant, conscients des problématiques de fabrication. Notamment, par exemple, sur un album comme Davodo, dont on va parler aujourd'hui, où là, on est sur de la couleur directe, sur de l'aquarelle. Rendre des couleurs à l'aquarelle en impression, c'est aussi une gageure qui, là, implique un éditeur, forcément.
Et je crois même que Étienne Davodo a dédié cet album-là à son éditeur de cœur.
Oui, mais là, c'est encore plus de cœur parce que Claude Gendreau, c'est presque son éditeur, c'est un compagnon de route depuis très longtemps. Et comme Claude Gendreau va partir à la retraite, il y a une page qui se tourne. Et d'ailleurs, tous les albums de Davodo, les derniers, Le couloir aérien, même lui, on sent que... bon, là, c'est la thématique de la Loire, c'est toujours des thématiques écologiques. Mais derrière, là, on est en train de suivre un auteur qui vieillit. Il nous a fait sa crise de la cinquantaine. Là, c'est l'initiation d'un vieux mâle blanc qui prend conscience qu'il est complètement périmé dans ce monde qui est renversé par des valeurs écologiques, mais aussi féministes. Donc, il y a tout ça chez Davodo. Et c'est ça qui est aussi très touchant et émouvant dans ce qu'il raconte, quoi.
Alors, on en parle, Étienne Davodo, qui vient cet après-midi à l'occasion de la sortie de son nouvel ouvrage intitulé Loire. Étienne Davodo, c'est une vraie star du 9e art, avec près de 45 albums publiés en 30 ans. Il s'est imposé comme une grande figure de la bande dessinée documentaire et des récits animés également. Peut-être avec vous, Lucie Servin, on va retracer un petit peu le parcours d'Étienne Davodo, alors assez rapidement parce que 30 ans comme ça en une demi-heure c'est assez difficile à résumer, mais il y a un déclic à un moment et il va s'intéresser particulièrement il va changer son fusil d'épaule entre guillemets et faire de la bande dessinée documentaire. C'est quoi le déclic pour lui? Est-ce que justement vous pouvez nous éclairer un petit peu là-dessus? C'est quelqu'un qui a fait des BD plutôt de fiction, en fait, jusque dans les années 2000. Et puis il sort, en fait, rural.
Alors, c'est difficile de répondre pour Étienne Davodo, mais je vais essayer de dire que quand même, il y a un tournant dans les années 2000. La BD, à ce moment-là, explose par ses précurseurs qu'il y a eu, c'est-à-dire l'idée qu'on peut faire toute forme de récit en bande dessinée, qu'on peut exploser les formats, parce qu'avant, on était quand même réduit par des formats de publication, de prépublication dans la presse, surtout quand même toujours tiré vers la jeunesse. Là, il y a eu des premières révolutions dans les années 80, 90, etc. Étienne Davodo, dans les années 2000, où on peut dire qu'on peut tout raconter en BD, il a quand même des précurseurs. Il en a un qui est quand même très important, qui est Joe Sacco, qui est un auteur de bande dessinée américain, qui a commencé à faire de la BD reportage en ex-Yougoslavie et en Palestine, et qui je crois que d'ailleurs, il fait des premiers récits, il va faire sur la Palestine beaucoup, c'est lui qui va écrire Gaza 1956. C'est quelqu'un, Joe Sacco, c'est quelqu'un qui porte la BD reportage à son plus haut niveau. Dans le sens où il y a à la fois une exigence journalistique dans le texte, dans les sources, mais la même exigence portée sur le dessin documentaire. Il n'y a pas une image de Sacco qui ne soit pas elle-même référencée et archivée, etc. Le dernier qu'il a fait sur Payer la Terre, par exemple, sur les problématiques... dans le Grand Nord et sur les Indiens et le gaz de schiste, enfin toute cette problématique-là. Toutes les photos ont été prises dans des archives, même pour imaginer, c'est quelqu'un qui va se avoir cette démarche. Et je pense que Étienne Davodo a dû être très marqué par ce langage documentaire. Après, je pense que dans les influences de Étienne Davodo, il y a aussi des reportages documentaires qui pouvaient y avoir, d'ailleurs, qui ont tendance à disparaître à la radio aujourd'hui. Hein, je dois le dire, d'ailleurs, c'est problématique ce qui se passe en radio. Mais voilà, il y avait sur France Culture des reportages comme LSD, il y avait Daniel Mermet, il y avait Les Papous dans la tête, toutes ces choses-là qui ont peut-être créé un récit documentaire qui l'ont influencé, en tout cas pour parler de ça. Et il y a quelque chose qui est intéressant dans le récit documentaire en bande dessinée, c'est que c'est ce que Davodo, je trouve, explore le plus, c'est le côté incarné. C'est-à-dire que quand on va faire un récit en bande dessinée, on va être dans une histoire qui s'incarne avec des personnages et qui permet peut-être de faire toucher aux gens quelque chose d'une proximité qui se crée vis-à-vis des acteurs d'un reportage. On n'est pas en train de parler comme dans un journal, dans un documentaire à la télé, style Envoyé spécial, d'une thématique ou d'un sujet qu'on va aborder comme ça. C'est vraiment des personnages, des points de vue qui incarnent la thématique qu'on va aborder. Cette subjectivité, elle est essentielle dans le travail de Davodo.
Comme à la radio.
Comme à la radio.
Comme à la radio, LSD ou Les Pieds sur Terre, on part suivre quelqu'un. Mm. Alors après, la radio, c'est l'humain aussi. Et c'est, on peut difficilement faire de la contemplation en fait, sans blabla. C'est compliqué. Mais en tout cas, c'est la démarche documentaire, c'est d'aller au plus près des personnes et pouvoir en effet rendre compte d'un réel, on va dire. Alors là, le réel et le personnage principal de Loire, c'est Loire. Mmh. Et c'est pas la Loire. Ça, j'aimerais qu'on puisse en parler aussi. Hein. C'est personnifier en fait un fleuve. Alors il y a quelque chose de très proche de la nature et il y a un message qui passe forcément. Voilà, dans son dernier ouvrage, Davodo, il dresse un portrait assez sensible du fleuve et puis il le personnifie comme ça et c'est magnifique.
Oui, alors dans Loire, c'est vraiment... en plus, il y a toute une démarche. C'est-à-dire que là, derrière aussi Davodo, il y a aussi toute cette démarche de militants, hein. Écologiste, un militantisme qui part en plus d'une démarche très intime, puisqu'il le raconte dans Mauvaises gens, mais il raconte aussi le combat de ses parents, cette vision un peu engagée du monde, une vision engagée, lui, en militant écologique, anti-nucléaire, tel qu'il va le travailler à travers différents albums. Il y a Le Droit du sol, qui est juste avant, Journal d'un vertige, où il raconte cette espèce d'énorme randonnée dans l'espace et le temps, entre la grotte de Pechmerle et le futur site d'enfouissement des déchets nucléaires à Bure. Donc il y a toute cette conscience écologique, c'est quelqu'un qui est très renseigné. Et autour de la Loire, il y a non seulement l'endroit où il a toujours habité, donc il y a un rapport vraiment intime à ce fleuve. Et puis il y a aussi cette histoire des parlements de Loire. Donc cette idée qui est née en fait en Nouvelle-Zélande, si je ne me trompe pas, mais de faire des entités de la nature comme des fleuves, des personnes morales qui pourraient, devant lesquelles on est responsable devant la justice. Et c'est l'idée de ce qui s'est créé quand on a créé les parlements de Loire. La Loire, pourquoi ? Parce qu'en plus, c'est un des fleuves les plus préservés. Voilà, moi, quand j'ai eu Étienne au téléphone, j'étais en train de travailler sur une autre BD qui était sur le Rhin. Et le Rhin, c'est complètement différent. C'est un fleuve qui est ravagé. Et donc j'avais un auteur qui me parlait du Rhin, de cette espèce de filet vaseux, de canal qui a été complètement détruit par l'industrie. Et puis là, je prenais Loire dans les mains et là, c'était la bouffée d'air frais. J'avais l'impression d'être en vacances avec ses ciels, ses... Voilà. Et donc y a ce côté autour de Loire, il y a aussi ce rapport d'Étienne avec la nature, qui est un rapport intime de lui qui a toujours été vécu près de la Loire, mais c'est peut-être même plus c'est son rapport avec la nature, et c'est pour ça que l'introduction de Loire, c'est Descola et c'est La Tour, c'est-à-dire deux philosophes du vivant qui ont révolutionné, en tout cas pour notre conscience occidentale, notre représentation même de la nature. Puisque l'idée de Descola, par-delà la culture et nature, c'est de remettre en cause la séparation occidentale qu'on fait systématiquement entre l'humain et le non-humain. Et la Tour travaille à peu près de la même manière en parlant du système Terre. Et c'est ce point de départ-là que va prendre Étienne pour faire un livre qui est en même temps de la bande dessinée. C'est là que la bande dessinée est un média assez génial. C'est-à-dire qu'au-delà du discours philosophique ou militant, on va rentrer dans une histoire qui est en plus une fiction très légère, mais la légèreté n'empêche pas la profondeur. Et c'est exactement comme ça que se construit le récit de Davodo autour de Loire. Et faire parler la Loire, c'est, pour revenir à la question, parce que là, j'ai un peu, je suis allée dans les méandres, mais pour faire parler la Loire, le dessinateur, il a ce graphisme, il a cette pour faire parler la sensation, il a le dessin. Et dans cet album-là, c'est vrai que Davodo, qui est quand même habitué à faire des récits en la vie, noir et blanc, va laisser exploser son travail sur de la couleur, sur un travail d'aquarelle, sur un travail de lumière, puisqu'en fait, par contre, la bande dessinée a cette capacité de superposer, de juxtaposer plein d'images, et donc d'offrir non pas un portrait de la Loire, mais d'offrir une espèce comme ça de gamme, de petites touches impressionnistes de la Loire avec toutes ces lumières changeantes et toutes ces, dans tous ces états. C'est-à-dire qu'il y a aussi un travail sur le jour, la nuit, la météo, il fait beau, il y a un orage, toutes ces histoires de fulgurance aussi qui sont assez drôles, quoi. C'est Davodo qui m'a appris. On apprend toujours quelque chose en lisant un album de Davodo. Alors parfois, c'est des trucs très scientifiques, très pointus. Là, moi, j'ai appris que quand on était foudroyé, c'est quand on était mort par la foudre. Et quand on était fulguré, c'est qu'on survivait. Et c'est un peu ça, son portrait de Loire. Faire parler la Loire, c'est quand même... Il y a cette idée qui peut être poétiquement déclinée de fulgurance. Et de cette espèce de fleuve, il parle par fulgurance, cette manière de nous traverser, de nous changer par le côté diffus. Et il y a ce côté à queue aussi qui est très poétique et qui va faire presque toute l'ambiance du livre. Donc voilà, je m'arrête plus, il faut m'arrêter.
C'est bien, c'est le fleuve. Et alors moi, je trouvais très intéressant ce que vous disiez autour des différentes... des différents médias qu'il va utiliser, des différents supports qu'il va utiliser. Il utilise l'aquarelle, c'est quelque chose d'assez nouveau au final dans son œuvre, ou est-ce que vous le disiez, il est plutôt habitué au la vie ou des choses en noir et blanc, et là on a envie de dire que la Loire impose aussi l'aquarelle quelque part.
Ben, c'est pour ça que pour moi, Loire, dans la bibliographie de Davodo, c'est un album qui est une espèce de à la fois hybride et en même temps une espèce de qui contient tous les autres. C'est-à-dire que quand il fait des bandes dessinées documentaires, il sera plus dans des lavis en noir et blanc. Donc finalement, c'est un rapport à l'image qui est proche de l'aquarelle. Et il va utiliser la couleur surtout sur ses albums de fiction. Sauf que dans les albums de fiction, le dernier étant Les couloirs aériens, mais le plus connu étant Lulu femme nue. Et d'ailleurs, il y a du Lulu dans Loire. On retrouve un peu cette idée de la femme absente, de cette espèce de chose assez touchante, hein, qui est quand même comment un auteur masculin se conçoit comme féministe. Hein. Il y a tout ça quand même chez Davodo aussi. Mais dans ces albums de fiction, il n'y avait pas ce côté contemplatif qu'il peut y avoir dans Loire. C'est-à-dire qu'en faisant parler de fleuve, il est confronté au fait que techniquement, on ne peut pas verbaliser, on ne peut pas faire parler le fleuve. Et si la Loire, il y avait une bulle qui sortait de la Loire, ça ferait quand même assez bizarre.
C'est un peu cheap.
Je pense que ça serait quand même un non-sens par rapport justement à ce qu'il dit. De concevoir la Loire comme une entité, comme une entité agissante, mais ça peut pas être un humain. Enfin, ça peut pas être la bulle et la Loire qui dit « Ah, tu m'as fait mal, t'es rentrée, tu as plongé dans moi » ou « J'en sais rien ». Donc, effectivement, dans cet album-là, il laisse parler le fleuve avec des grandes séquences contemplatives, muettes, avec des planches panoramiques où vraiment on est dans le dessin. On est en plus avec tout un jeu sur les horizons, plus ou moins hautes, plus ou moins basses. Est-ce que c'est le fleuve qui prend plus... Enfin, comment les rapports, en fait, de la Loire, non pas comme décor, mais comme paysage conçu comme paysage vivant. Donc, on va avoir les rives, les ponts, sous la mer, enfin, sous l'eau, les animaux. Enfin, c'est comment il décrit tout ça. Et c'est vrai que le côté aquarelle, c'est lui qui en parlera le mieux, mais il y a aussi ce côté eau, quoi. Il y a tout sous ce rapport à l'eau, un rapport à l'eau qu'il a toujours eu à travers ses images, par contre. Hein.
Et alors, il le dit, hein, j'ai pris des milliers de photos, j'ai scruté et espionné la Loire sans relâche pour justement pouvoir retranscrire au plus près, peut-être aussi ce qu'il ressent quand il voit ce paysage magnifique de la Loire, mais aussi pour fixer quelque part les couleurs, tout ce qui va faire le travail graphique d'un dessinateur. C'est arriver à... malgré les changements de la lumière, arriver à fixer en effet sur le papier quelque chose. C'est très intéressant toutes ces discussions autour en effet de Étienne Davodeau. Rendez-vous tout à l'heure à la médiathèque à partir de 15h, donc on est le 16 décembre, à partir de 15h pour cette rencontre animée par Lucie Servin. Merci beaucoup. On va pas tout dévoiler en effet dans cette interview parce que il faut qu'il reste des choses en effet pour cet après-midi. On vous remercie beaucoup et puis on encourage bien sûr tous nos auditeurs à se pencher sur l'œuvre d'Étienne Davodeau qui est très large et qu'on peut découvrir bien sûr à la médiathèque d'Orléans. C'est à l'auditorium. Et puis pour illustrer cette Loire, cet album nouveau d'Étienne Davodeau, on va écouter J'entends une rivière, c'est Titi Robin et c'est le voisin d'Étienne Davodeau dans cette petite bourgade du Maine-et-Loire, c'est ça, où il habite. Titi Robin, c'est un musicien qui a joué avec beaucoup de personnes différentes, plutôt guitariste et jazzy, on va dire. Et là, il a écrit cette chanson avec Michael Lonsdale, voilà, un acteur également. Voilà, on va écouter tout ça. J'entends une rivière sur Campus. Titi Robin.
J'entends une rivière profonde. Couler de toi à moi. Son lit décalé rond glisse. Il y a des vagues sur la berge. quelqu'un a laissé sur la grève. Une page de journal froissé. Il est écrit que là-bas il pleut. Alors qu'ici, le soleil flamboie. Appuie sur mon épaule. Pour avancer dans l'eau de mer, et je sens tes doigts sur ma peau. Laisse ainsi ta main, car c'est moi que tu portes.
À l'instant, c'était Titi Robin sur Campus 88.3 FM avec Michael Lonsdale. Alors, on vous rappelle, bien sûr, que Étienne Davodeau vient cet après-midi, que vous pourrez le rencontrer et que c'est Lucie Servin qui anime cette rencontre à partir de 15h à l'auditorium Marcel Régui de la médiathèque d'Orléans. Alors, avec toi, Aurélie, on va faire l'agenda. L'agenda de la médiathèque. Alors, on vous donne rendez-vous, bien sûr, cet après-midi pour cette rencontre. Eh bien, à cette occasion, vous pourrez emprunter un sac surprise, par exemple, aussi, à la médiathèque, au troisième étage. Il y a des sacs surprises qui sont réservés, en effet, aux personnes qui souhaitent les emprunter à la médiathèque. Alors, il y a tout un petit florilège, une sélection de vos plus beaux coups de cœur qui sont disponibles. En effet, vous faites ça pendant toutes les vacances. Et c'est un plaisir, en fait, que justement de se laisser guider comme ça par vos coups de cœur et par votre sélection. On va aussi pouvoir assister cet après-midi, mais ce coup-là, ce sera la médiathèque Saint-Marceau, à une projection de Ondin et la petite sirène. C'est une variation sur le conte d'Andersen qui est imaginé par l'autrice Julie Martini et le compositeur Julien Le Hérissier. Ça prend la forme d'un conte musical participatif qui plonge au cœur des questionnements écologiques le spectateur de notre temps. Alors, c'est un concert enregistré à la Philharmonie de Paris par l'Orchestre d'Île-de-France le 6 février 2021. Et puis, c'est pour tout public à partir de 6 ans, cet après-midi à 16h à la médiathèque Saint-Marceau à Orléans. Et puis, il y a un cycle d'ateliers. Aurélie, est-ce que tu peux nous en parler? Il y a des ateliers qui sont prévus, notamment les mercredis. Alors, cycle d'ateliers autour de la pratique de l'échec, des échecs pratique de l'échec, c'est autre chose. Je pense. C'est intéressant aussi, mais c'est un peu plus philosophique. La pratique des échecs, donc c'est le club d'échecs d'Orléans qui vient tous les mercredis, en effet, pour bien vous initier ou vous faire jouer, vous donner des tips, en effet, pour être meilleur encore.
Oui, tout à fait. On a eu la chance d'avoir l'association, le club d'échecs d'Orléans qui nous a proposé ce partenariat. Donc, ils viennent les mercredis matin, pour l'instant à la médiathèque du centre-ville. Là, il va y avoir une date le 20 décembre. Ça va être notre dernière date sur la médiathèque. On a un médiateur de l'association qui vient faire de l'initiation aux échecs, tout public, à partir de 5 ans. Ça se passe au 3e étage, de 10h15 à 11h30. C'est un endroit où on peut se retrouver, quel que soit son âge et quel que soit son environnement, si on connaît, si on ne connaît pas du tout. L'idée, c'est d'ouvrir les échecs à tous les publics. Qu'on ne se dise pas que les échecs, c'est réservé à une élite aujourd'hui, c'est plus ça. Voilà, les petites filles, les petits garçons, les grands-parents, tout le monde peut venir. C'est une initiative qui va tourner après sur tout notre réseau, qui ira après à la médiathèque Maurice Genevoix, je pense au printemps, la médiathèque aussi de la Nouvelle-Argonne. Donc voilà, on a la volonté de le développer aussi en quartier, c'est très très important, les échecs, ça apprend plein de choses.
Il y a également un atelier nouveau qui est proposé, il me semble, au centre Charles Péguy. Ce sera également le 20 décembre prochain, c'est un atelier autour... des fenêtres, on va dire, et
on va jouer avec la lumière au centre Charles Péguy, voilà, via des décorations, oui, tout à fait.
Sur les fenêtres.
Ouais, ces fenêtres sur l'hiver, l'idée toujours c'est de proposer des choses pendant les vacances, hein, c'est ce que tu rappelais, c'est des vacances qui sont un peu particulières, ces vacances-là de fêtes de fin d'année, mais on se dit qu'on a aussi envie de proposer plein de choses aux enfants et au tout public. Et donc, le centre Charles Péguy nous propose de décorer ses fenêtres. Donc, c'est quand même un bel hôtel Renaissance. Déjà, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est intéressant de venir le découvrir. Et donc, l'idée, c'est de décorer les fenêtres. Et après, avec la lumière, il va y avoir un jeu autour de ces décorations qui va se créer. Donc, un atelier le 20 décembre et le 23 décembre également, de 15h à 16h sur réservation. N'hésitez vraiment pas à venir, ça va être... un atelier à la fois créatif et puis qui va laisser des traces de nos visiteurs sur le centre.
Et puis, c'est également le prix de la reliure de la ville d'Orléans en 2024. En effet, le réseau des médiathèques lance ce prix de la reliure. Christine, est-ce que vous pouvez nous parler davantage de ce prix ? Alors, j'imagine que c'est aussi à l'occasion de ce manuscrit.
Oui, alors, il s'agit en fait, 2023, c'était l'anniversaire, les 150 ans de la naissance de Charles Péguy. Je rappelle que donc, le centre Charles Péguy conserve plus de 90% des manuscrits de Péguy et qu'en début d'année, nous avons exposé un manuscrit de Charles Péguy qui était un manuscrit inachevé, qui n'avait pas été publié du vivant de l'auteur, donc qui s'appelle « Pierre ». Et il nous a semblé important d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire que ce manuscrit-là, c'est un manuscrit, donc c'est des feuillets qui sont indépendants les uns des autres, donc il y a des difficultés de consultation, hein, pour les chercheurs, et en même temps, il y a eu un prix de la reliure qui a été lancé dans les années 2000 à Orléans. Il y a dû y en avoir 5 éditions et rien depuis 2011. Et il nous semblait intéressant de relancer donc ce prix de la reliure, justement sur ce manuscrit de Charles Péguy, parce que la reliure, un métier d'art méconnu, qui nous semble extrêmement important à mettre à l'honneur aujourd'hui. Et je crois que dans les collectivités publique française, nous sommes les seuls à proposer un prix de la reliure. Je peux juste préciser que les inscriptions se font jusqu'au 31 janvier, que le montant du prix pour le gagnant est de 10 000 euros, que pour le deuxième, il sera de 2 500 euros, à charge pour le gagnant de réaliser sa reliure pour pouvoir après qu'on la conserve.
Mais en effet, ce n'est pas un concours qui est ouvert aux amateurs, par exemple. Non, c'est pas possible.
Oui, c'est un concours qui est ouvert aux personnes qui sont relieurs professionnels.
Et puis, on va doucement glisser vers le mois de janvier. Mais avant ça, peut-être rappeler qu'il y a une exposition à voir autour de la Loire également, jusqu'au 30 décembre, ici à la médiathèque. C'est au centre Charles Péguy aussi. Voilà, donc dépêchez-vous parce que le 30 décembre, ce sera terminé pour cette exposition qui a lieu ici depuis déjà un petit moment, depuis le mois de septembre, c'est ça?
Oui, c'est une exposition qui partait d'une collection qu'on garde à la médiathèque de l'ingénieur Paul Guillon. Et c'est une exposition vraiment que je vous invite à aller voir parce que qu'on connaisse très très bien la Loire.